L'idée, c'est d'apprendre sur ces deux mondes et de savoir que nous pouvons apprendre à faire la distinction entre les deux, commencer à reconnaître les deux mondes. Ça nous avance déjà énormément. Si on est dans une situation, soit devant la télé ou soit devant un film, on est entré dans un film et puis on n'a pas bien vu le thème du film et ça commence à nous perturber, on peut voir c'est une représentation d'un monde. Mais à côté, il y a aussi un autre monde. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est d'apprendre pour essayer de distinguer les deux et de reconnaître comment le monde réel peut être là, caché derrière les scènes devant moi, et littéralement dans un cinéma, les scènes devant moi. Par contre, il y a un autre domaine d'expérience, une autre dimension d'expérience, où nous voyons que tout ceci n'est que apparence, n'est que des simples apparences par-dessus un autre monde, une autre expérience de quelque chose absolument merveilleuse, vitale, vivante, réelle, éternelle, immuable, inchangeable, qui est là, présent pour nous à chaque instant, qui ne nous a jamais quittés, qui a été le fond de la réalité depuis le début du temps, et qui sourit avec nous à chaque instant pour nous aider à nous alléger à notre expérience de la vie, qui est une expérience de douleur, tant que nous accrochons encore à des choses de cette vie ici, notre expérience sera lourde. Parce que n'importe sur quoi on s'est accroché, dans lequel on s'investit, on sait qu'au fond de nous, c'est temporaire. Ça ne peut pas durer. Donc, même si c'est un grand plaisir maintenant, on sait que ça va s'arrêter. Ça ne peut pas continuer. On s'est encore investi dans quelque chose éphémère et temporaire. Donc forcément, quelque part dans notre esprit, on sait que ça va s'arrêter. Il y a une énorme, énorme réserve de bonheur qui ne nous quitte pas. Mais il faut qu'on se tourne dans sa direction. Le problème avec tout ceci, c'est que la partie de nous qui doit décider, c'est que si je me tourne vers cet immense réservoir ou réserve de bonheur, il y a quelque chose que je vais perdre. Et ce que je vais perdre, c'est un tout petit sentiment d'être moi-même. Parce que dans cet immense, magnifique réservoir et réserve de bonheur et d'amour, ce n'est pas un domaine ou ce n'est pas une expérience personnelle qui me reconnaît personnellement, où je me sens reconnu personnellement. C'est un océan. Ce n'est pas un petit lac. D'accord ? Dans un petit lac, peut-être d'amour, je peux me sentir, j'ai de la place. Mais dans un océan, soudain, c'est tellement vaste et énorme, je sens que j'ai quasiment, ça me donne le vertige. C'est un peu ce sentiment-là par rapport à cette réserve d'amour. Ce n'est pas personnel. Ça ne peut pas nous reconnaître et me reconnaître personnellement. C'est impossible. C'est le principe de l'unité. L'amour est parfait et à 100% est plein et complet pour tout le monde. Pareil, sans distinction. Ou moi, je trouve, c'est pas que je trouve ma place, je trouve ma réalité. Donc, je dois céder ma petite place. Je dois céder une partie de moi pour pouvoir me retourner là. Et c'est pour ça que je ne le fais pas. Tant que je ne suis pas prêt, tant que j'ai encore ce genre de barrières ou difficultés en moi, une vraie hésitation, tant que je, dans le langage du cours, tant que je m'investis toujours dans ma particularité, mes très chères, Je ne m'autorise pas, je ne me permets pas de retourner vers l'amour, cette immense réserve, un réservoir d'amour, de bonheur immuable qui est juste là, qui sourit avec nous à chaque instant. Il nous présente l'idée qu'il n'y a, je suis désolé, vous êtes bien ici, il n'y a pas d'espoir dans cette vie ici et dans ce monde. Il n'y en a pas. D'accord? Et il y a un énorme espoir. Énorme. Il n'y a que ça. Mais dans l'esprit. Dans l'esprit. Ça veut dire que nous avons une capacité d'avoir une autre expérience de l'existence, et donc cette expérience de la vie, où notre perception et notre expérience, notre vécu, n'est pas basée dans les choses de cette vie ici. Parce que les choses de cette vie ici, tant qu'on s'investisse dedans, tant qu'on s'accroche dedans, dessus, sont trop éphémères pour pouvoir possiblement nous satisfaire. Tout va changer ici. Les relations, un jour c'est bien, un jour c'est mauvais. Même les petits-enfants, aussi adorables qu'ils sont, ils ont des mauvais jours. Et des fois, ils tombent aussi malades. Même les personnes qui sont le plus cher, le plus stable, en vraiment dans une santé parfaite, à ne jamais avoir un mauvais jour, ils peuvent mourir. Il n'y a pas de sécurité ici. On ramène l'attention. Première chose, on se dit, il doit avoir une autre voie. Je suis malheureux. Donc, première prise de conscience, je ne suis pas heureux. Je suis souffrant. Donc, il faut un certain niveau de prise de conscience de la souffrance, que je ne suis pas bien. Deuxième étape, je me rends compte que j'ai un point de vue légèrement reculé des scènes de la vie ici. Je ne suis pas obligé de prendre tout à la lettre et tout personnellement. Il y a une autre interprétation. À ce moment-là, je laisse venir ces autres informations, l'autre explication, l'autre interprétation pour tout ce qui se passe. Et quand je comprends que tout ce qui s'est passé, les émotions hautes et basses, les réactions vives et tout le reste, tous les dangers et toutes les peurs, quand je me rends compte que tout ceci était inévitable à partir du moment que les gens concernés se sentaient séparés de leur source, qui est un faux problème parce que personne n'était jamais séparé de sa source, que tout ceci est juste un faux problème, une petite erreur, à ce moment-là, moi, je relâche ma condamnation sur toutes les autres personnes concernées, surtout parce que je vois que nous avons fait ensemble une erreur. Ce n'était pas une grande erreur. D'accord, les conséquences ici sur le plan ici étaient malheureuses, peut-être parce que les gens se sont bataillés, ils sont entrés en collision, en conflit.
En fait, il ne faut pas vouloir changer ce rêve finalement, il faut avoir une autre perception quoi, finalement.
Ce qui est la définition du rêve, l'une des définitions du miracle, c'est que le miracle ne fait rien. Il nous montre simplement que nous sommes en train de rêver, qui est le rêveur, et le contenu du rêve n'est pas vrai. Parce que l'ego va toujours nous dire, ce rêve est vrai. Ce rêve est vrai, il y a ce rêve, c'est même pas un rêve, il va dire que c'est la vérité. Et nous prenons du recul, il dit, attends, il y a un autre explication, il y a quelque chose qui tourne par an dans cette histoire ici. Et effectivement, nous n'avons besoin de rien faire en dehors, de se retirer juste un petit peu, un petit battement, d'arrêter de prendre des choses si personnellement pour nous, et d'arrêter de tomber aussi dans le jeu des autres qui prennent personnellement. Donc c'est pas simplement pour nous, c'est aussi possible pour les autres qui vont essayer de nous convaincre qu'ils ont raison de prendre personnellement ce qui se passe. Et tu dis, attends, il y a un truc qui tombe par an. Tout ceci, tout ça a commencé à partir d'une petite erreur d'aiguillage, une petite erreur qui a dit je suis cet être humain, je ne suis plus du tout au joint avec ma source spirituelle, je ne fais plus du tout partie de ma source spirituelle, je suis cet être fragile, vulnérable et pécheur. Je suis rempli de mal. Ce qui est toute la programmation de l'ego, c'est qu'on a choisi d'être séparé, mais cette séparation n'est pas anodine. La séparation est venue aussi avec une énorme charge derrière. D'accord, on a décidé de se séparer, on n'a plus voulu faire partie de la magnifique ensemble. D'accord, mais ce choix a eu une conséquence. C'est venu avec une énorme charge derrière, ce qui est le charge de la Trinité non sainte, ce qui est le péché, culpabilité et peur. Ça veut dire que ce n'est pas simplement Je me dévance un petit peu, parce que c'est ce qu'on allait faire tout à l'heure. C'est l'idée qu'à l'instant que j'accepte la séparation et que j'accepte que ça peut être réel, j'accepte en même temps l'idée que j'ai fait mal, ça a dû faire mal à Dieu, comme si c'était possible, mais pas simplement que ça a dû faire mal, je suis le mal, je suis mal, je suis tout ce qui est le plus maléfique sur terre, l'existence. Je suis un être fabriqué, taillé d'un bloc de mal. C'est pas simplement j'ai fait mal, je suis le mal maintenant. Et que par la suite, on fait tout pour essayer de nier ça et de mettre ce mal sur le compte des autres. Et de se rendre compte de ce jeu, c'est le miracle, le vrai miracle. C'est aussi le processus du pardon. Et donc, effectivement, ça n'a rien à voir à faire les changements ici ou voir les changements dans cette vie ici. Ce qui est aussi le but du passage, I need do nothing en anglais, je n'ai besoin de rien faire, c'est pas comme ça en français, parce qu'on retourne le langage pour faire la traduction.
Je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit.
C'est ça, quoi qu'il soit. Voilà, je n'ai plus besoin de faire quoi qu'il soit. Quoi que ce soit. Merci. C'est le but, le sentiment de ce passage-là, et d'autres encore, c'est que faites des changements ici, dans ce monde, si vous voulez. Ne pensez pas que ça va guérir le vrai problème. Le seul et unique vrai problème, c'est le sentiment chez chacun de s'être réussi dans cette séparation avec sa source, et que par la suite, la conséquence était la culpabilité profonde. C'est le seul problème. Une fois que nous acceptons de retourner vers l'innocence, notre vraie innocence, il y a tellement de problèmes qui évanouissent tout seul. Mais tout seul, il y a tellement de problèmes qui viennent, tous nos problèmes viennent de cette simple idée que nous avons pu fabriquer pour nous-mêmes une identité tellement fautive, tellement rempli de mal, que par la suite, on fait plein de bêtises. On fait plein de bêtises, on se remplit de plein de besoins qui n'ont pas lieu d'être. Une fois que nous acceptons que nous n'avons pu rien faire à la source et à l'origine, avec une quelconque idée de séparation, quelle idée, nous pouvons nous retourner très doucement, délicatement, et aux bras ouverts, vers cette source d'amour. Qui n'a qu'une envie, c'est de nous recueillir dans ses grands bras ouverts pour nous rappeler de notre innocence parfaite, qui est l'innocence parfaite de chacun. Nous tous dans un ensemble, un très très bel ensemble. La différence avec le cours, c'est qu'il est très spécifique et très défini par rapport à ces façons par lesquelles on essaie d'utiliser l'extérieur pour se faire plaisir, ce qui est les relations particulières. Il nous fait focaliser spécifiquement sur ces relations qu'on a avec l'extérieur pour se servir de l'extérieur. On essaie de se servir de ces images. Déjà, c'est nous qui les avons investis avec le pouvoir sur nous. Parce qu'en réalité, le monde est totalement neutre et rien de ce qui se passe, de ce qui se fait, peut vraiment nous affecter. Il faut d'abord que nous donnons une qualité à ces choses-là, une interprétation à ces choses-là pour nous satisfaire. Ce qui me satisfait moi, ce qui satisfait Philippe, c'est deux choses entièrement différentes. Surtout au niveau des repas et tout ça. Moi, qui ne bois que de l'eau et qui ne mange même pas, et Philippe, qui est sûrement
un bon mangeur,
un bon verre d'eau, ça me suffit. Il ne faut pas parler du tagine de l'agneau à midi, mais bon... Et c'est ici la vraie thèse de ce stage, et d'ailleurs la thèse du cours. Ce qui change radicalement avec le monde, nous pensons vivre ce monde automatiquement ou indirectement. Mais non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas que le monde se passe autour de nous. Oui, il y a des scènes qui se passent autour de nous. Mais ce que nous captons et ce que nous expérimentons du monde, c'est entièrement un drame entièrement à l'intérieur de chacun. Entièrement un drame à l'intérieur de chacun, basé sur sa condition intérieure. Et nous avons passé du temps à regarder ce que c'est cette condition intérieure pour bien comprendre comment ce processus fonctionne, ce que nous avons vu tout à l'heure. C'est un processus de l'esprit qui pousse notre perception vers le monde, et c'est par ce processus que j'expérimente, que j'ai une expérience de ce monde ici. Je suis toujours en train d'avoir une expérience non pas du monde extérieur, je suis toujours en train d'avoir une expérience de mon monde intérieur. Et par la suite, parce que je n'ai pas envie de le voir comme ça, je vois ces scènes à l'extérieur et je pense que je suis en train d'avoir une expérience du monde à l'extérieur. Je ne peux pas avoir une expérience du monde extérieur parce que selon le cours, il n'y en a pas. Il n'y a pas un vrai monde à l'extérieur. Nous ne sommes que des images traversant ce rêve. Donc il n'y a rien dans cette vie ici qui peut vraiment sauter, comme si on est dans un cinéma hein, et l'image qui est sur le camp saute sur moi dans le public et me grippe par la gorge. Non. Je suis dans le public de ce théâtre hein, ou de ce cinéma. Il se passe des images sur l'écran. J'ai assez dissociation, je sais avec une partie de mon esprit que c'est des acteurs. Ils sont vachement bien payés pour faire ce qu'ils font, pour se faire mal, pour faire semblant de se faire mal. Je sais que personne ne se fait mal, personne ne va mourir dans ce film. Dissociation, je mets dans mon esprit qui veut vraiment croire dans les images de l'écran. Mais ces images qui sont en deux dimensions ne peuvent pas possiblement m'affecter. Sauf si je les permets quasiment d'entrer dans mon psyché et de entre guillemets, de m'affecter. Dissociation énorme. Je sais que c'est des acteurs qui sont très bien payés parce que je lis les journaux People le soir. Et de l'autre côté, une fois qu'ils sont sur l'écran maquillés avec une barbe et tout ça, je prétends que, ah non, c'est pas Brad Pitt, c'est Josh, je ne sais pas qui. Ou Matt Damon. Pourtant, je l'ai aimé dans le film précédent, le film d'avant. Mais j'ai fait abstraction de tout ça. Je sais, c'est moi qui met ces personnes dans ce rôle de méchant ou d'héros. Mais qui est en train de faire tout ça? Il n'y a personne qui est sorti de l'écran pour me donner peur. C'est des scènes, c'est des images. Et c'est ce que j'ai trouvé un petit extrait du cours tout à l'heure qui va nous aider à comprendre que c'est nous qui donnons cette puissance, cette force à ces images extérieures pour nous affecter comme ça. Nous sommes toujours en train de jouer un drame intérieur et de le voir à l'extérieur. Quand je vois les gens s'entretuer sur l'écran et se pourchasser, quand je vois les Allemands en 1944 pourchasser les résistants, et je me sens tremblant de peur. Je tremble de peur parce que je ressens à l'intérieur une énorme autorité, pas allemande, d'accord, mais une autorité cosmique, le faux Dieu, d'accord, qui court à travers mon rêve, mon intérieur, pour me pourchasser, pour prendre ce que je lui ai volé. Ce n'est pas parce que je vois les Allemands pourchasser les résistants en 1944 que je sais c'est déjà vieux de 60 ans et je sais que c'est des acteurs et je sais que je suis entré dans un cinéma. J'ai une réaction par rapport à ça parce que j'ai un drame en moi d'être pourchassé. Et c'est pareil pour absolument chaque chose à l'extérieur ici. Quand je vois un enfant blessé, quand je vois un drame à l'extérieur ici, il y a toujours une histoire à l'intérieur de moi qui est parallèle à ça, si ça m'affecte. Et c'est ce que nous allons essayer de décrypter et déchiffrer là. C'est comme ça que nous allons voir que ce qui vous dérange dans cette vie ici n'est pas parce que ce monde est une véritable prison. Ce monde n'est pas une véritable prison. Ce monde semble une prison par ma projection. Parce que je suis en train de vivre une prison à l'intérieur, je suis incarcéré avec des fous furieux méchants qui me pourchassent, avec une vulnérabilité extrême, et par la suite, je vois toutes ces scènes partout autour de moi. Je suis un enfant vulnérable. C'est pour ça que j'ai tellement d'horreur de voir des choses terribles qui se passent avec des enfants à l'extérieur. Moi, je me sens un chat égaré et errant dans la nuit en hiver. C'est moi le chat seul qui n'a pas de foyer, qui n'a pas de maison. C'est pour ça que je ne peux pas supporter de voir les chats abandonnés sur la route. Et pareil pour les chiens. C'est mon drame intérieur que je vois toujours projeté à l'extérieur. Mais en tout cas, c'est ce que Laurence a dit. Et juste d'abord, c'est très difficile d'aller en dessous pour voir qu'il y a un choix de souffrance à un niveau profond, à savoir que ce choix de souffrance profonde, c'est pour recouvrir l'océan qui est juste derrière. C'est pour recouvrir la présence de l'amour qui est juste derrière. La personne ne veut pas retourner voir l'océan derrière. La personne préfère rester dans cette expérience d'individualité accrue. Et par la suite, se sont obligés de projeter ça sur l'extérieur et dire que je ne suis pas souffrant à un niveau profond, je ne sais pas de quoi tu parles. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis souffrant parce que ma maison a été emportée par un tsunami, parce que la maison a été inondée, j'ai tout perdu, par un incendie ou parce que nous sommes obligés de quitter cette ville, parce que mon mari il a perdu son travail, je dois quitter ma famille. On a tous une multitude de raisons pour dire que nous sommes souffrants ici. Et c'est très très dur de voir en dessous, c'est parce que c'est la partie de nous qui veut encore croire tellement dans la méthode ou le processus par lequel l'expérience ici est fabriquée ou semble être fabriquée. C'est ça c'est pour ça qu'il y a toutes ces sections dans le cours sur cause et effet. Le cours retourne tous ces concepts de cause et effet. L'ego va nous dire, ma souffrance est causée par l'extérieur. Cause et effet. La cause de ce que je suis, et surtout si on suit la psychanalyse traditionnelle, la cause de ce que je suis et ce que j'expérimente, c'est mon enfance, c'est mon monde autour de moi, c'est l'extérieur, c'est mes collègues, c'est tout ça. Cause extérieure, effet intérieur. Le cours retourne ça entièrement pour dire non, vous avez complètement oublié la puissance de l'esprit de nier son choix de souffrance profonde et sa capacité par la suite de projeter sur l'extérieur et d'attribuer la cause de sa souffrance sur les scènes extérieures qui sont des scènes neutres. L'extérieur n'a pas cette capacité de nous affecter si nous ne donnons pas cette capacité et si nous nous retournons vers quelque chose qui est extrêmement stable et pur et aimant à l'intérieur de chacun. L'extérieur ne peut pas nous déstabiliser, nous décentrer, nous déséquilibrer si nous nous souvenons que nous sommes parfaitement bien accompagnés par cette force. Mais nous devons le vouloir. Nous devons vouloir nous retourner vers cette force intérieure. La force ne peut pas venir s'imposer sur nous. Il faut qu'on l'invite. Il faut qu'on s'invite vers elle. Et c'est ça, c'est pour ça que c'est difficile. On sait qu'il y a cette possibilité, cette option de reconnaître cette présence, cette énorme présence de tranquillité derrière ces scènes de carnage et de terreur. C'est là. Il y a quelque chose en nous qui le ressent presque comme trahison de dire non à la souffrance des autres et à ma propre souffrance. Il se passe autre chose derrière. Il y a quelque chose en moi qui le ressent presque comme une impossibilité, une trahison. C'est mon attachement, ma familiarité avec ma particularité, avec tout ce que je pense être. Parce que ça ne peut pas aller vers l'amour. Ça s'effondre, cette idée s'effondre, s'évanouit. quand j'approche, quand je me retourne vers l'océan, quand je me retourne vers l'océan, je vois que la force de l'océan, c'est la mienne. Mais pas le petit moi. Je fais partie de cette force. Il y a quelque chose en moi qui est relativisé au point de ne plus avoir d'importance. Et c'est ça qui est tellement impressionnant pour nous. On n'a pas l'habitude de le faire. Pourtant, vous êtes tous bien sur le chemin de le réfléchir, sinon vous ne serez pas venus. Vous regardez ces questions de l'esprit depuis très longtemps. Donc vous devez commencer à comprendre qu'il y a une partie de nous qui est très réticente, toujours, d'admettre qu'il y a autre chose qui se passe dans la vie et autour de nous à chaque instant.